Radio Girol en direct de l'Open Bidule Camp de Bordeaux.
Et bonjour à tous et bienvenue pour une émission spéciale de Radio Girol avec Radio Station Essence ou Radio Station Essence avec Radio Girol au choix. Nous sommes en direct de l'Open Bidouille Camp qui se déroule aujourd'hui même et demain à l'ancien collège Fieffé, rue Fieffé, à la fabrique Pola, avec tout un tas d'associations qui sont là, et de collectifs, pardon, qui sont là pour vous initier à la bidouille. Je suis avec Guzel. Bonjour Guzel. Et le micro ne marche pas. Voilà, voilà. Ça y est, le micro fonctionne.
Allô, allô.
Oui. Ah,
salut tout le monde, salut Yurik. Merci de nous avoir donné la possibilité de squatter le réseau de, enfin la radio Girol pour le temps de ce week-end pour vous concocter ce petit plateau radio en direct de Open Bidouille Camp où on va essayer d'interroger chacun des participants. Un projet très ambitieux, mais on va s'y atteler.
On devrait y arriver parce que ce n'est pas la première fois que le Radio Girol s'associe à l'organisation de l'Open Bidouille Camp. Ça avait plutôt bien fonctionné, mais il faut que les choses se passent et que les intervenants qui ont commencé les ateliers il y a un tout petit peu plus d'une heure se mettent déjà dans le bain et trouvent ensuite le temps de venir nous parler de ce qu'ils font ici.
Oui, alors on est entouré de bruit, de marteaux, de tournevis, je voulais dire, mais en fait, les tournevis, ça fait pas beaucoup de bruit, quoique. Toutes sortes d'outils. Qu'est-ce qu'on entend là?
Meuleuse, je pense, meuleuse, ouais. Disqueuse, enfin, c'est la même chose, ceci étant dit. Scie circulaire, on peut apercevoir là-bas les compagnons bâtisseurs qui sont en train de s'affairer sur des morceaux de bois découpés, pointés. Tout ça.
Des musiciens qui répètent aussi, parce qu'il va y avoir plein de concerts aussi ce soir.
Il va y avoir des concerts, des jeux vidéo, parce que oui, la bidouille, ce n'est pas forcément avoir un marteau et un tournevis. Il y a aussi, effectivement, comme tu le disais, des instruments de musique. Il y a aussi des machines à coudre, il y a des fils électriques, des fers à souder, il y a des morceaux de carton. On peut notamment découvrir un baby-foot fait en carton. Il y a des vieilles consoles de jeux. Enfin non, pas des vieilles consoles de jeux, mais des ordinateurs qui émulent des vieilles consoles de jeux fabriquées maison, avec des boîtiers, pardon, fabriqués maison. On peut aussi déguster une bonne bière locale, faite maison aussi.
Avec modération, bien sûr.
Avec modération. Ils ont aussi d'ailleurs une très très bonne limonade faite maison, qui là, on peut consommer sans modération.
Oui, bon.
Voilà.
Voilà, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait
Je pense qu'on va diffuser un petit peu de musique et rester à l'écoute parce que de toute façon, nous allons, au fur et à mesure que les gens affluent, essayer de faire des interviews aussi bien d'intervenants que, pourquoi pas, aussi de visiteurs de l'Open Bidouille Camp. En attendant, on va passer la petite playlist habituelle de Radio Girol et dès que l'on trouve des gens à interviewer, on reprendra, je dirais, l'antenne.
Et n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez nous raconter votre expérience, des différentes machines que vous aurez testées, des appareils photo, si vous avez participé aux ateliers, si vous voulez nous partager avec les autres votre émoi, n'hésitez pas à venir et prendre le micro. Et on a toujours un de libre.
Radio Station Essence, la radio à contresens.
Radio Girol en direct de l'Open Mobile Camp de Bordeaux.
Et nous voilà de retour de suite. En fait, la pause musicale n'était pas longue. C'était C418 sur Radio Girol, un artiste qu'on aime beaucoup. This song is not good. Alors, malgré le titre, on peut dire que si, la chanson est très bonne. Voilà, c'est bon.
C'est bon ? Ah, voilà.
Alors, nous sommes avec Bugsy Cornette. C'est toujours ça ?
Bonjour.
Non, c'est... Là, c'est bon, t'entends.
Non.
Oui, mais en fait, non.
Alors, on s'est un peu emmêlé dans les, dans les micros.
C'est bon.
Toutes les couleurs.
Ah oui, ça y est, ça marche.
Alors, tu es un habitué de Radio Girol, et du coup, c'est ta première apparition sur Radio Station Essence. Tu es un musicien.
Oui, alors, juste... J'ai du mal à entendre, en fait, parce que c'est un peu radio chantier autour, et... Ah oui, voilà, il y a un faux contact.
Oui, j'en ai.
Allô ?
Oui.
Non, ça ne marche pas. Non,
essaye,
ça marche pas.
Celui-là.
J'ai changé de casque. Ah, alors, on bouge. Alors, attends. Voilà. Ça y est, je te comprends maintenant.
Radio Girol reste Radio Girol, hein, oui, malgré que l'on soit à l'Open Video Camp. Alors, tu es musicien de ton état et inventeur d'instruments aussi fous, plus fous les uns que les autres.
Ouais, c'est ça. Musicien, ça fait toujours bizarre de dire musicien parce que ouais, j'ai toujours du mal à me considérer musicien, mais on va dire chercheur de son, voilà, plutôt.
Ce qu'on voit pas à l'Open Bidouille Camp, c'est que tu joues de la scie musicale.
C'est vrai.
Seuls ceux qui te connaissent depuis un moment savent effectivement que tu joues de la scie musicale.
C'est vrai, je fais l'hymne à la joie à la scie égoïne.
Ah mais alors, tu l'as pas emmené ?
Ah bah non, j'étais super chargé déjà.
Alors ceci étant dit, Gisèle, on peut chercher dans les archives de Radio Girol, on doit l'avoir en train de jouer de la scie. Hein, je dois même avoir encore les enregistrements d'un concert fait à Radio Girol.
C'est possible, oui.
Avec la scie. Mmh. Alors qu'est-ce que tu es venu présenter à l'Open Bidouille Camp ?
Alors, je suis venu présenter un instrument que j'ai fabriqué en m'inspirant très fortement des ondes Martenot, puisque c'est un instrument que je trouve très intéressant. C'est d'abord un des premiers instruments électroniques qui a été inventé. Il a été inventé en même temps que le theremin. Tous les geeks du monde connaissent le theremin. C'est cette espèce de boîtier avec deux antennes que l'on joue sans toucher l'instrument. Donc c'est un instrument hygiénique, bien entendu. Et les ondes Martenot ont été inventées à la même époque par un Français qui s'appelait Léon Martenot. Et voilà.
Donc ça fait un peu des sons qu'on a souvent utilisés dans des films d'horreur, un peu,
des films d'horreur. Mais pas que. C'est un instrument qui a été, c'est un des très rares instruments électroniques qui a été accueilli dans l'orchestre classique. Il y a eu beaucoup de partitions écrites pour les ondes Martenot.
Il y a Ravel qui a écrit pour. Ouais.
Voilà, il y a Messiaen, il y a Honegger. C'est un instrument qui a été beaucoup utilisé, par exemple, par Jacques Brel, par Edith Piaf, mais qui est également utilisé par des contemporains comme Patrick Watson, comme Radiohead. Un petit groupe qui va pas tarder à percer normalement. Voilà. Donc voilà, c'est un instrument qui est assez passionnant, qui est très mélodique et qui peut aussi être utilisé pour la recherche sonore. Donc voilà, c'est. Disons que c'est un instrument, voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cet instrument, c'est que c'est un instrument qui utilise des sonorités électroniques, mais avec un toucher et une expressivité qu'on trouve rarement dans les instruments électroniques, quoi. Plutôt dans les instruments acoustiques.
Alors, on peut écouter en direct les différents bruits, justement. Je pense que vous entendez bien, les chers auditeurs. Donc, quel genre de... Donc, avec la scie, tu arrives à reproduire les bruits, enfin, les mêmes sonorités, plus ou moins, que le...
Mais, alors, alors déjà, il faut être un peu plus précis. C'est, il y a la scie musicale et il y a la lame sonore. C'est-à-dire que la scie musicale ressemble encore à une scie égoïne. Donc elle va être utilisée plutôt par les clowns. Aux États-Unis, ils aiment beaucoup aussi cette forme-là parce que bon, c'est le folklore aussi un petit peu quoi. Et par contre, la lame sonore, c'est un instrument qui est dérivé de la scie musicale. C'est un Français qui a modifié la forme de la lame, qui a supprimé les dents puisqu'il n'y avait pas besoin que ça coupe. Qui a rajouté une poignée d'inflexion, puisqu'en fait, c'est un instrument où il faut tordre la lame d'une certaine façon. Donc, avec une poignée d'inflexion, on est plus précis et on se fatigue beaucoup moins. Et voilà. Après, le principe reste le même. Les sonorités restent les mêmes. Ça se joue pareil. Voilà.
Et alors, si on revient à ton atelier aujourd'hui, ça a l'air plutôt bien se passer. Et ton instrument attire quand même pas mal les foules. On a vu même, avant même que l'Open Bidou Camp ouvre ses portes, on a beaucoup d'intervenants qui sont venus essayer de découvrir ton instrument.
Ouais, oui, ça fait plaisir. c'est des sonorités qu'on n'entend pas souvent, donc ça intrigue. Et puis ça paraît être, bon, ça a été beaucoup de boulot quand même, hein, je ne vais pas me le cacher, mais c'est un travail qui reste accessible pour quelqu'un qui bricole et qui joue un peu du fer à souder, ça reste assez accessible. Mais ça fait son effet parce qu'effectivement, au niveau des sonorités, c'est pas commun et c'est très... Je peux pas me vanter, mais c'est très poétique comme sonorité. Donc, ça plaît.
Bon, je pense qu'on imagine déjà, on voit déjà quel genre de son ça fait. Ou en tout cas, ça donne envie de venir. Donc, n'hésitez pas à venir. Venez tous tester cet atelier.
Voilà, surtout que Bugsy est en plein milieu de l'Open Video Camp, on va dire.
En plein milieu.
On peut pas te louper. Avec Stereotop à côté.
Et oui.
Est-ce qu'il y a un concert de prévu ou une démonstration prévue de ton instrument?
Alors, je suis complètement à l'ouest. Et alors, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Donc, je crois qu'on va jouer à 19h. Moi, je joue quand il faut jouer, il n'y a pas de souci. Mais je crois que c'est 19h, ouais, il me semble.
Voilà, il n'est pas difficile, il suffit de demander.
Ah oui, il n'y a pas de souci. Et si, alors, je peux me permettre aussi d'annoncer une date qu'on va donner avec Stereotop, justement. On va donner un concert le 28 octobre. Le 28 octobre, et je ne me rappelle plus à quel endroit. Je crois que c'est à l'Antidote.
Je crois où est-ce qu'on pourra trouver de l'info aussi
sur le, il y a un site, une page Facebook qui s'appelle Stereotop sans accent. Voilà, tout simplement.
Tout simplement.
Et il y a toutes les informations. Et on a aussi un site internet, mais qui n'est pas très à jour pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Et voilà, il y a les infos dessus.
Et dernière petite chose, est-ce que tu proposes toujours des morceaux à télécharger ou que l'on puisse écouter quelque part sur internet?
Oui, alors j'ai un Bandcamp. Vous cherchez, vous allez sur Bandcamp, vous cherchez Bugsy et vous allez trouver normalement. Et puis j'avais mis des morceaux aussi sur, et ça fait longtemps et je ne me rappelle plus.
Dogmazic.
Dogmazic, c'est ça. Ouais, voilà, tout à fait.
Bon. Bien.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Bugsy.
Eh ben, de rien.
Et puis peut-être à plus tard, peut-être qu'on te reverra tout à l'heure avec Stereotop.
Avec plaisir.
Bon, en tout cas, ça me dit bien de participer à l'atelier.
Bon, nous en tout cas, on va continuer un petit peu de musique. On va vous proposer Nick Vivid, Too Much Light pour l'instant, et ensuite la playlist sera un peu au hasard.
Radio Station Sens, la radio à notre sens. Thank you.
everybody in. Ceremony has begun.
J'allais de fleur en fleur peinard, je m'en foutais plein l'abdomen du nectar. C'était nous les rois de la tige, et avec mes potes on aimait passer des journées de voltige à flâner. On n'avait pas besoin de se presser pour vivre, il suffisait de se presser, je te jure, comme dans les livres. Y'avait bien les frelons du dessus qui pensaient avoir le pouvoir. Genre ils nous prennent pour une autruche, nous et notre ruche. Ils veulent nous dicter leurs lois et puis nous faire voler au pas. Mais ensemble on est bien plus fort que ces gars-là. On n'avait pas besoin de se presser pour vivre, jusqu'à ce que des gros doigts poilus nous polluent. We'll be right back. C'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales. Ont des idées de génie, mais hélas pas inoffensives pour mieux se faire payer entre. C'est l'agriculture intensive, à grands coups de gaz et d'enfumage, à coups de pulvérisateurs, des métastases dans leur fromage. Merci Pasteur. Alors que ça nous tue d'accord, s'en fout que ce soit important, mais le pire c'est qu'ils se tuent d'abord à trop bouffer des détergents. Ces plantes canadaires, c'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales. À traiter ces plantes canadaires, c'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales.
Thank you.
Radio Girol en direct de l'Open Mobile Camp de Bordeaux.
Walking and smelt the earth. We don't give the ground the respect it's worth. I knelt down close, trying to breathe it in. Thought it might stop my mind from spinning. Cause earlier I went to the shop for some face-to-face contact. The machine asked me twice if I wanted cash back. I replied with a question, how's life for you, mate? Next thing, hands are at my collar, and I'm out the back gate. And you say to me, you're slipping further, where will it all end? See, to me it feels like flying higher, not gonna sit here and pretend. At the local cafe I asked for some veg soup. They looked at me like I was an utter fruit loop. I looked around to find zombies chomping sticks of pepperami. Eyes empty and galling stared back at me as I stumbled outside to take the air. Found myself in a walker's thoroughfare. I asked a woman for help, but she sped past where I stood. Just kept tapping on her phone, saying she'd help. And you say to me, you're slipping further, where will it all end? See, to me it feels like flying higher, not gonna sit here and pretend. While out on the streets machines rise higher, pipe music is sung by a synthesized choir. Just metal and concrete, can't see nothing green. Shrill metallic echo, a nightmare scene. Ooh, ah.
looked around to see an endless stream. Hordes of people tramping past me, they spoke as one. And together they said, we just want somewhere safe to lay our heads. Well, I stopped in at a pub, 'cause my nerves were on edge, craving reassuring words and local knowledge. But the door was shut, not open for business. What kind of world is this? Where out on the streets machines rise higher, pipe music is sung by a synthesized choir. Just metal and concrete, can't see nothing green. A shrill metallic echo, a nightmare scene. Wake up, wake up, wake up.
Radio Station Sens, la radio à Contresens.
Vous êtes en direct de Radio Station Essence et Radio Girol de Open Budeuil Camp à la Fabrique Pola.
Voilà, et nous accueillons quelqu'un du Labo Photo. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Catherine.
Ah, il faut bien approcher le micro.
Oui, je vois. Catherine du Labo Photo, révélateur d'images.
Salut,
voilà,
Catherine.
Nous faisons... Bonjour. Nous faisons partie de la Fabrique Pola et nous sommes sur... l'Open Bidouille.
Et donc, vous avez un engin, une boîte très curieuse qui sort des images. Alors, comment ça marche, en fait ?
C'est ce qu'on appelle une Afghan Box. C'est-à-dire qu'on est revenu aux origines, vraiment, de la photographie, à savoir que tout est fait dans cette boîte, qui est une boîte en bois sur laquelle on a rajouté un optique. Et on prend des photos sur du papier qui est photosensible. On fait la chimie à l'intérieur de la boîte et on sort une image de cette magnifique boîte.
Alors tout à l'heure, quand tu prenais la photo, donc tu as enlevé le capuchon, en fait, c'est ça ?
Ouais.
Et donc pendant quelques secondes, tu as dit un mot magique, en fait. Est-ce que c'est un mot de passe pour, pour faire apparaître
Non, c'est pour compter le temps. Parce que comme d'habitude, c'est la photographie, c'est juste une gestion de lumière et de temps. Ces principes fondamentaux de la photographie, que ce soit en argentique ou en numérique, c'est ça. Donc le mot magique, c'était Mississippi. Moi, je suis plutôt pour éléphant, mais bon. Donc un Mississippi équivaut théoriquement à une seconde. Ça dépend un petit peu du début de la voix, en fait.
Mais ça aurait pu être abracadabra, par exemple, non ?
Eh non,
non,
mais
ça serait
je
ne
sais pas. Ah. Abracadabra, à mon avis, oui, ça serait plus une seconde et demie, deux secondes.
Ah, d'accord.
Alors, ce qui paraît fou, c'est que, comme tu disais, tout est fait à l'intérieur de la boîte, mais surtout, j'ai eu l'impression que tu passais le papier dans le révélateur sans même ouvrir la boîte. Il faut que tu fasses par une espèce de gant, façon un peu chirurgien, où tu devais tremper le papier, enfin, si j'ai bien compris.
Ben oui, c'est le principe de la chambre noire. Donc, tout doit rester dans le noir, forcément. Et étant donné que c'est du papier photosensible, si vous le mettez à la lumière, le papier est foutu, il est voilé. Donc effectivement, toute la manip se passe avec une seule main. On fait la mise au point, on va prendre le papier et à l'aveugle. Donc
ah ouais.
C'est rigolo quoi, mais là on est en phase de test et puis je vous invite à venir le tester avec nous.
Donc,
si vous n'êtes...
Oui. Donc, photosensible, du coup, prend un autre sens aussi.
Ah, complètement.
Y a un autre
ouais.
sens qui est. Ouais.
Mais la photographie est nécessairement sensible.
Mais oui.
Et donc, du coup, ça permet aussi au public qui vient ici à l'Open Bidouille Camp de voir qu'en fait, prendre une photo, il ne faut pas beaucoup de matériel. Alors, on a effectivement, maintenant, il faut un tout petit appareil, mais on ne sait pas très bien comment il fonctionne. Enfin, mais, et surtout, de voir comment, avant les smartphones, avant les appareils photo numériques, une photo était réalisée.
Oui, c'est le principe de la chambre obscure d'une part ou de sténopée où vous pouvez, et d'ailleurs on fait des ateliers dans ce sens-là, vous pouvez faire des photos avec une boîte de conserve sans aucun problème. Ça s'appelle des sténopées. Donc il suffit juste d'avoir une boîte avec un trou et qui soit complètement fermée à la lumière. Voilà, c'est tout. C'est le principe de base. Et le numérique, comme l'argentique, encore une fois, je me répète, c'est exactement le même principe. Donc, en fait, une fois que vous connaissez un principe dans un des deux branches, vous pouvez passer et naviguer des vieux procédés aux nouveaux procédés. Ça ne change pas fondamentalement.
Bon, mais moi, en tout cas, ça me donne envie de me prendre en photo, là, sur ce fond à carreaux.
Vichy.
Voilà.
Vichy, c'est du noir et blanc, je précise. Nécessairement.
Oui, mais oui, oui.
Et
oui,
ça
oui.
apprend aussi à prendre le temps.
Ça a son charme aussi.
Ouais,
le
c'est
noir
pas
et
mal.
Blanc, moi j'aime beaucoup. Bon.
Alors pour les gens qui seraient intéressés hors Open Bidouille Camp pour venir au Labo Photo, comment ça se passe ?
Oh ben, c'est une association, on fait partie de la Fabrique Pola. Donc notre association est au sein de la Fabrique Pola rue Fieffé, là où nous sommes ici présents. Et voilà, il s'agit de nous rencontrer. On a des ateliers un petit peu dans tous les sens. On a des rencontres, nous faisons des expositions aussi. La dernière en date, est-ce que je peux en parler ?
Oui, bien sûr.
On a fait le marathon photo argentique qui a eu un grand succès cette année. On l'a fait au Douve. Et le 21 octobre, il y a le résultat de cette expédition, en fait. Et là, je vous invite vraiment à venir le voir, parce que cette année, on a eu d'abord énormément de candidats. Les sujets étaient encore plus surréalistes que d'habitude. Genre, au ras du sol, invasion festive, la nostalgie du poil, enfin bon, n'importe quoi. Et les candidats avaient 12 thèmes, 12 clichés et 24 heures. Et tout ça se passait en Argentique, donc ils n'ont pas encore vu le résultat. Ils ne le verront que le 21 octobre, à partir de 18h au Douve.
On est encore dans prendre le temps, là, typiquement.
Et ça, c'est gestion du temps.
Les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes juste, notre studio radio est installé juste à côté d'une affiche, effectivement, du 16e marathon photo argentique.
Oui.
Voilà, comme quoi.
Voilà.
Merci beaucoup pour cette intervention.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et puis du coup, je pense que Güzel, je te sens prête pour aller tester la photographie, l'Afghan Box, si j'ai bien.
C'est ça, l'Afghan exactement. Box. Allons-y. Bon,
et nous, on reprendra l'antenne dès qu'on aura d'autres intervenants à interviewer.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
You're listening to the fucking Radio Giro.
Girol Radio Station. Thank you.
I want to realize how to defy all these notions left by dry time. Work on outside healing my mind, slowly rewind back to design and play. Decide how to feel my inner desires without compromise. I know in those eyes I don't show all I hide, braced into colored wire. Blades grow in time to plaster faces on the ground. Staring up into the crowd, makeshift people
thank you. Radio Station Essence, c'est trop bien. Elle vous fait plein d'amour. J'écoute la musique qui est dans sa radio.
Oui, voilà, je crois que c'est mon jingle préféré avec ma filleule qui est. Elle est juste géniale. Elle est par là d'ailleurs, quelque part. Coucou.
On pourra y faire écouter le résultat. Alors, ouais. On est de retour parce qu'on est cette fois-ci avec Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, Antoine qui fait partie du collectif Stéréotope.
Oui.
Alors,
ça.
Qu'est-ce que c'est Stéréotope ?
Alors, Stéréotope, c'est un collectif d'artistes qui a été fondé il y a de ça 4 bonnes années. Oui, moi, je l'ai cofondé avec Nicolas Linel et Cédric Lévesque. Qui eux se connaissaient avant, avaient un peu déjà pensé à Stéréotope, avaient commencé à plutôt l'orienter sur une action de type net label, etc. Et après, l'idée, c'était de faire un collectif autour des pratiques musicales, électroniques, expérimentation sonore, voilà. L'idée, c'est de faire se rencontrer des artistes, principalement de la région bordelaise, autour de cette pratique-là, et d'essayer de faire des choses ensemble. Alors, ça a pris le plus souvent, pour l'instant, la forme d'événements, de concerts, de séries de concerts, souvent dans un lieu qui nous accueille très gentiment, qui s'appelle l'Espace 29, qui se trouve pas très loin de la place Gambetta. Un lieu d'exposition, on y trouve aussi des ateliers d'artistes. Et donc on a fait souvent des concerts là-bas. Et donc l'idée, c'est de présenter un peu les musiques électroniques, nos pratiques de la musique électronique, montrer que la musique électronique, c'est pas uniquement du club, c'est pas uniquement du DJing, c'est aussi des lives, des machines qu'on joue en direct pendant le temps du concert. C'est aussi une manière de voir la musique qui n'est pas uniquement orientée sur la danse, peut aussi sur une écoute un peu plus profonde, on va dire. Et donc voilà, l'idée du collectif, c'est de fédérer aussi des artistes et de permettre aussi la diffusion de nos pratiques, principalement à Bordeaux pour l'instant.
Alors, en parlant de l'Espace 29, il y a une série d'événements très originaux et très chouettes, en fait. Et vraiment, je conseille, je recommande à tout le monde, c'est des somniums, c'est Primordial Primates, je crois, qui organise ça.
Oui, c'est moi, j'ai fait partie aussi de l'organisation, je fais aussi partie de Primordial Primates, et au Fourneau aussi. L'idée de Somnium, c'était de faire une nuit, en fait, de concerts. De live, de musique électronique. Et là, le public est invité à dormir sur place pendant toute la durée de l'événement qui s'étend de 22h à 8h le lendemain matin. Donc on a fait ça en décembre 2016, et qui était plus une édition, on va dire, test pour voir, parce qu'on n'avait jamais vécu une expérience pareille. C'est quand même assez particulier de voir comment on allait réagir, comment ça allait se passer du côté des artistes, du public. Et on a fait l'édition finale en juin dernier, qui s'est très bien déroulée. On a rempli le nombre de public. Et donc l'idée, c'était de mélanger à la fois une partie musicale avec des artistes issus, alors pas uniquement de Stéréotope pour le coup, de la scène bordelaise dans les musiques électroniques, dans les musiques drones. Et aussi faire appel pour le côté plastique dont s'est occupée l'association Au Fourneau, à des plasticiens, des plasticiennes surtout, pas uniquement des plasticiens, pour habiller l'espace de sommeil, de concert, avec des créations faites uniquement pour cet événement-là, quoi, de faire une exposition éphémère qui dure le temps de la nuit, en fait. C'est ce temps-là qu'on a souhaité habiter.
Donc voilà, on espère qu'il va y avoir d'autres événements, d'autres épisodes. Mais en attendant, du coup, ne réponds pas. laissons le suspense. Mais donc du coup, aujourd'hui, tu es ici et tu proposes donc des ateliers circuit bending. Non,
pas du tout. Alors, il n'y a pas de circuit bending. Ça fait partie des pratiques de certains membres du collectif, le circuit bending.
Et pas aujourd'hui.
Il y a 2 ans qu'on a participé à l'Open BDU Camp à Bacalan. Il y avait Gaël Jaton qui fait partie du collectif, qui lui est très versé dans le circuit bending. Là, cette fois-ci, je suis venu avec Buxy Cornet, Nicolas Merle, qui lui aussi fait pas mal de créations par lui-même.
On l'a interviewé il y a de ça une petite heure à peu près.
Voilà, donc il s'est présenté. Et c'est bien. Enfin, on a deux membres qui sont assez complémentaires dans la bricole. En tout cas, pour l'atelier aujourd'hui, il y a Bukti qui présente ce dont il a parlé juste avant. Et alors moi, je fais plutôt un atelier autour de l'expérimentation avec des machines qui sont déjà là, que je n'ai pas forcément fabriquées. Mais l'idée, c'est de détourner leur utilisation, de montrer aussi, par exemple, comment fonctionne un synthétiseur, de montrer. Alors j'ai un synthétiseur là miniature qui me permet en fait de choisir les éléments qui vont le constituer. Donc on voit pour le coup que dans un synthétiseur il y a ce qui va générer du son, ce qui va le modifier, ce qui va lui permettre de faire apparaître le son à un moment donné, de le faire disparaître à un autre moment, et de comprendre en fait comment fonctionne un synthétiseur, qui est généralement une boîte avec un clavier et puis des boutons qu'on tourne, et c'est pas trop ce qui se passe dans cette boîte noire. Et l'idée, c'est d'ouvrir un peu ça.
Est-ce qu'il faut aussi connaître comment ça s'appelle là ?
En électronique.
Voilà, merci.
Pour toucher à ça, non, pas du tout, parce que finalement, on ne touche pas à un fer à souder. Tout ce qu'on fait, c'est connecter des éléments qui existent déjà entre eux. Et puis, c'est pas grave si on les connecte n'importe comment, ça ne donnera pas de son, ça ne donnera pas ce qu'on a envie de faire avec. Donc moi, je suis là pour encadrer justement les choix que vont faire les participants, et leur expliquer un peu comment fonctionne chacun des éléments qui constituent un synthétiseur. Moi, c'est un outil avec lequel je travaille, par exemple, le synthétiseur modulaire. C'est mon instrument électronique, c'est le même principe. J'ai choisi les éléments qui le constituent, je choisis comment je vais les brancher, et ça va donner des résultats différents. Donc ma pratique, c'est aussi de fabriquer d'une certaine manière l'instrument que je vais utiliser, et après avec ça, de composer d'une certaine manière avec. Donc là, je propose ça. Il y a aussi une autre activité dans l'atelier qu'on propose, qui tourne autour du Larsen, du feedback. Donc généralement, c'est des choses qu'on ne souhaite pas quand on travaille dans le son. Il faut éviter de mettre un micro devant un haut-parleur, sinon ça va créer un son souvent désagréable. Là, l'idée, c'est de travailler avec ce son-là et de voir comment on peut le contrôler. Finalement, il n'est pas si indomptable que ça. Donc là, l'idée, c'est justement de transgresser un peu l'utilisation sonore, alors aussi bien avec un micro qu'avec une table de mixage qui, au lieu de récupérer un signal qui vient de l'extérieur, on va prendre la sortie de la table de mixage pour la mettre dans elle-même. Donc ça fait un circuit de feedback, oui, une boucle. Et ça va produire un son, pour le coup. Et comment on peut contrôler ce son ? Ça crée un espèce de synthétiseur de fortune, finalement, avec une table de mixage de mauvaise qualité. Donc,
mais avec des jolis sons à la fin.
Oui, des jolis sons, pas tout le temps, mais ça peut être intéressant de travailler avec des sons qui ne sont pas forcément jolis.
Tout à fait.
Si les gens sont intéressés par Stereotop, comment on entre en contact avec vous ?
Alors on peut entrer en contact soit par notre site internet stereotop.org, il y a un formulaire de contact. On est ouvert à tout type de propositions, que ce soit pour un événement, pour une collaboration artistique avec une autre association ou d'autres choses. Ou l'idée aussi d'aller dans des disciplines qui ne sont pas forcément les nôtres, de cohabiter un peu avec d'autres types de créations. Même si on a une pratique sonore qui n'est pas toujours très abordable pour le commun des oreilles, on essaye un peu de l'ouvrir. Mais par exemple aujourd'hui avec l'Open Bidouille Camp, et de montrer que ce que l'on fait, c'est pas non plus quelque chose d'élitiste et qui justement c'est complètement l'inverse, quoi. C'est tellement ouvert que tout le monde peut y participer et s'approprier le son à sa manière. Chose qu'on a par exemple faite sur une série d'événements qui s'appelle Arch Noise, où on propose à n'importe qui de répondre à notre appel à participation et à venir s'exprimer en son pendant un quart d'heure comme il le souhaite. Ça, on l'avait fait plusieurs fois à l'envers.
Est-ce qu'on peut trouver quelque part des tutoriels, enfin vous avez des sources justement des procédés, comment on peut faire si on veut des choses chez soi ? Est-ce qu'il y a des sources comme ça, des casernes d'Ali Baba, des cavernes, pardon.
des sources en ligne, tu veux dire
Ouais.
Ouais. Alors nous, on n'en propose pas, il y en a évidemment, mais...
La radio à contre-sens.
shattered at the edges, in the gnawing pains. Oh, there are voices, and I hear memories echoing for sinners in the car.
Oh, Station Essence, Radio Station Essence, Radio Station Essence.
Sans faire de bruit.
Lockdowns, the weakness, or strikes. Bruises on my face.
Y'all listen to the fucking Radio Giro.
Giro Radio Station.
Du camp de Bordeaux.
Tu sacherais bien à quel point nous sommes vénères, à quel point l'heure est sévère, quelle rage coule dans nos artères. Depuis trop longtemps, enfermés dans l'enclos, la peur des cris, les froids dans le dos. Alors on décide de rester car il fait plus chaud dans le troupeau. On marche au pas, rien nous étonne. Le temps passe, les années s'additionnent. De si nos vies sont monotones, on reste avec les autres, on ne sort pas de la zone. Différentes stratégies nous aident à supporter nos vies. Comme des chatons au fond d'un sac, on est au bord de l'asphyxie. On reste collé, on reste serré. On a peur de s'échapper, on se croit malin mais on est con, on tourne en rond comme des moutons. On broute tous la même herbe, on trempe tous dans la même merde. On cherche une place dans le troupeau, on cherche à gonfler nos égos. Mais un mouton qui allait dans l'eau, on galère d'un con un peu partout. Pour se faire un nom, pour se faire une place, il se rapproche un peu des loups. Chaise,
prêt
à l'arrêt qui pue. Pré-air copé. flippée de faire partie des précaires. Rien qu'à l'esprit grégaire, qu'écoute sa mère, son père, fait des courbettes à sa banquière. T'élève des barrières, voudrait posséder jusqu'à l'atmosphère. Du jour au lendemain dans la galère, tu t'étonnes de la crise financière. Perdu tes propriétés foncières, la vie n'est plus aussi hospitalière. Tes pensées prolifèrent et tes idées prospèrent contre l'État et les violences policières.
Radio Station Sens, la radio à notre sens.
Cimetière, mais toi tu finiras dans les plus hautes sphères. Tu te casseras pas le cul comme caissière. T'es hurlé avec les loups, tu vas gentiment dans les clous. Toujours une patte dans le troupeau, t'as bien fait la combatte à tout niveau. Reste vive dans le coton pendant que nous luttons. T'es qu'un louton, rien qu'un louton.
Alors, on va passer au débat en direct donc sur Radio Girol et Radio Station Essence. Comment construire la ville de demain? Et c'est parti.
C'est bon.
Alors, on va commencer le débat. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont envie de discuter un petit peu de comment construire la ville de demain à venir nous rejoindre au niveau des tables à côté de l'escalier en colimaçon. Il reste de la place. Alors, du coup, j'ai profité de ce temps pour vous souhaiter la bienvenue au festival Open Midweek Camp. Donc, on va dans quelques temps démarrer le premier temps de débat sur la place du citoyen et comment construire la ville de demain. Comment construire la ville de demain? Donc déjà, bienvenue à tous à la Fabrique Paula. Donc merci à eux de nous avoir accueillis pour cette quatrième édition. Donc pour notre festival Open Bidouille Camp, donc ce festival des savoir-faire partagés. Donc vous avez vu qu'il y a plein d'ateliers tout autour de vous. Vous pouvez faire plein de choses, donc que ça aille du numérique à la réparation de vélos, la couture. Et plein d'autres choses encore, donc des ateliers comme les autres années, mais cette année une nouveauté. Donc il y a des chapiteaux qui sont un peu disposés tout autour de vous. Dans ces chapiteaux, il y a des gens qui travaillent, qui fabriquent des choses. Donc il s'agit des zones à bidouiller. Donc finalement, sous ces chapiteaux, ces personnes, on leur a donné un défi, finalement de prendre 2 jours pour réinvestir cette zone de 9 mètres carrés et proposer une nouvelle utilisation de cet espace, en se questionnant sur les questions environnementales, sociales. Voilà. Donc déjà, merci à eux de participer à ces zones à bidouiller. Donc si vous voulez aller les voir pour discuter un petit peu avec eux de ce qu'ils font, donc on a un projet de cuisine mobile, un projet de carriole à sérigraphier, un autre projet autour de la végétalisation de la ville et bien sûr leur proposer un coup de main parce qu'ils ont beaucoup de boulot pour ces 2 jours. Donc l'idée, c'est de lier les moments de discussion qu'on a là en fait autour de ces zones à bidouiller, donc autour de ces réinvestissements de l'espace public. Et en fait parmi nous, il y a 2 personnes qui sont venues intervenir, donc 2 intervenants qui sont Nicole Concordet, qui est architecte, et Simon Leroulet, qui est sociologue. Ils vont venir prendre la parole, mais l'idée, c'est que vous veniez prendre la parole pour essayer de discuter un petit peu de tout ça. Donc la question, c'était finalement comment fabriquer la ville de demain. Et il y a donc Nicole Concordet va prendre la parole pour parler d'architecture, car elle est architecte. Donc Nicole Concordet. Ah, Alors, on va chercher Nicole Concordet qui est partie discuter. Alors. On a commencé. Alors. Voilà. Ouais, comme oui, on va se essayer de se. Alors, n'hésitez pas à venir vous rapprocher, à vous asseoir avec nous. Venez, il y a plein de places pour venir discuter. Venez, venez, rapprochez-vous. Alors. Alors du coup, comme je le disais, on se questionne sur comment fabriquer la ville de demain. Du coup, Nicole Concordet, qui est architecte, va nous parler un petit peu d'architecture et pour venir nous aider à réfléchir un petit peu autour de toutes ces questions.
Et là, je parle. moi, je sais pas comment ça marche, ce truc. Ah, tu veux pas présenter tout le monde comme ça c'est la surprise. Ah, d'accord. Oui, alors je suis censée. Tu veux pas présenter le thème au moins. Ah, j'ai raté le début. D'accord. Donc, comment on fabrique la ville de demain? C'est une vaste question qui m'effraie complètement d'ailleurs, pour être honnête. Moi, je suis là parce que je pense parce que j'ai une pratique un peu particulière et qui fait sens dans cet événement. Donc, je pourrais peut-être poser des questions.
Alors, la première question en fait que je me posais finalement, c'est que donc on réfléchit à comment construire la ville de demain. Et finalement, avant de réfléchir à comment construire cette ville de demain, c'est réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui existe comme projet d'architecture, des choses où on réemploie des matériaux, comme on peut le faire sur les zones habitouillées qu'il y a juste là, où c'est pas mal de réemploi de matériaux, où on fait participer les gens. Donc, toutes ces notions-là, qu'est-ce qui existe déjà? Et finalement, c'est un petit peu sur toutes ces expériences qu'on voudrait avoir ton retour concernant tes expériences d'architecture.
Alors, je ne vais pas faire un exposé parce que je ne peux pas faire de projection, je ne vais pas montrer d'image. Je vais juste parler peut-être des ambitions que je peux avoir sur certains projets. Donc, moi, comme je suis architecte, je suis à un endroit où on peut faire des choses. Avec un peu d'idées, c'est-à-dire que notamment là je vais parler plus précisément d'un projet de logement que je fais, de réhabilitation de logement que je fais sur Claveau à Bordeaux et en gros c'est comment on peut mettre en place des projets avec des entreprises, ceux qui font, ceux qui vivent sur place. De façon à ce que tout le monde contribue et que, avec l'avancement du projet, les mentalités changent et qu'il y ait une forme d'engagement qui se produise. Alors, il faut préciser une chose. Alors, je sais pas, peut-être que Simon, il fera peut-être écho à ce que je suis en train de dire. Il a disparu. D'accord. Donc nous, quand on est sur des projets comme ça, on est sur place, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on habite avec les habitants. C'est un peu, j'ai un écho, c'est assez bizarre. Je m'entends parler. Je vais peut-être me mettre derrière, non ? Je sais pas. Ouais, c'est pareil. Bon, donc on est sur place, donc on est installé dans le quartier, c'est-à-dire qu'on occupe les lieux, donc on est identifiable et on a la possibilité de faire avec. Donc on va voir chaque habitant, on leur pose des questions sur leur habitat et on fait le projet avec ce qu'ils nous donnent comme indication. Donc je suis, c'est super dur hein, de parler avec. Ouais. Donc voilà. Vous entendez pas ? Vous n'aviez pas fait ça avant ? Je suis la première à parler au micro là. Ah d'accord. Ah d'accord. Vous arrivez à suivre un petit peu là parce que c'est un peu décousu. Donc, c'est une. Comment on fait la ville de demain ? Donc, la seule ambition qu'on peut avoir, c'est ce que je voudrais sur ce projet et sur à peu près tous les projets, c'est comment on peut faire en sorte que les personnes avec qui on travaille se posent dans une situation pas uniquement contractuelle ou dans un rapport financier, mais plutôt de savoir comment, en travaillant avec elles, en échangeant, en vivant avec elles, on a la possibilité de créer une forme d'engagement et d'avoir produire en fait une sorte d'acte politique. Alors c'est un peu raccourci, mais c'est un peu comme moi je vois la façon de travailler, c'est-à-dire en gros il ne s'agit pas de faire de juste produire de l'architecture, mais il s'agit aussi de d'échanger. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, à travers cette histoire, changent, et moi aussi. Donc on est dans un rapport productif d'échange, quoi, je ne sais pas, pour faire simple. Donc on est dans cette histoire-là, et donc on peut... on avait un peu échangé avec Simon auparavant, et... tout ça, ça pose la question, en fait, pour moi... c'est la notion un peu de liberté et de savoir jusqu'où on peut comment on peut profiter de, comment faire en sorte que les personnes avec lesquelles on travaille se sentent libres de faire quoi. Je sais pas si je parle de ce projet, c'est un peu particulier, alors, un peu décontextualisé, c'est compliqué. Donc, c'est, pour que vous compreniez, c'est une cité-jardin où il y a beaucoup d'espace. Peu de gens connaissent cet endroit. Ça fait 18 hectares. Il y a beaucoup de jardins. Enfin, il y a des maisons individuelles. Il y a beaucoup de friches. Et la question que je me pose, c'est à quel moment, puisque ce sont des espaces libres dont personne ne s'approprie, en fait, ce sont des espaces abandonnés, dont tout le monde se plaint, puisque du coup, c'est source d'insécurité, d'inquiétude, etc., c'est comment on peut faire en sorte, en échangeant ensemble, comment on peut faire en sorte que cette attitude par rapport à ces espaces libres change, c'est-à-dire que plutôt que de les voir comme une contrainte subie, de les voir plutôt comme un espace de liberté possible. Donc comment on peut inverser les choses ? Tous les habitants du quartier, en général, se plaignent et disent « voilà, ça fait des années, on nous abandonne, il n'y a personne qui s'occupe de nous, c'est terrible ». Et moi, je leur dis tout le temps « vous étiez peut-être abandonnés, mais vous étiez extrêmement libres ». Donc faites en sorte que cet abandon perdure et que vous puissiez rester libre. Voilà. Donc comment en fait, en changeant son regard sur les choses, on peut aussi voir les choses de façon plus positive et ensuite se dire qu'avec cette liberté, on peut s'approprier les choses et changer le monde autour de soi. Quoi. Si je peux donner un exemple concret de ce processus, c'est-à-dire que sont des maisons, elles sont toutes similaires. Il y a trois typologies. Les gens y habitent depuis plus de 50 ans. Et ça devient, même si c'est du logement social, ça fait 50 ans qu'ils y habitent. Ce sont des maisons familiales. Et ça veut dire qu'en 50 ans, les personnes se sont énormément appropriées ces maisons. Ils les ont transformées sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc ce que l'on essaye de démontrer à travers tout ce qu'ils ont fait, et un relevé précis de tout ce qui a été fait, c'est que ce qu'ils ont fait avec une grande liberté, ils devraient pouvoir le faire aussi. Donc, chez eux, il faudrait qu'ils arrivent à le faire aussi dehors. Voilà. Et donc, en gros, déplacer cette chose. Enfin, puisqu'ils se sont appropriés, c'est, ils sont locataires, donc ils ne sont pas chez eux, en principe. Mais ils ont considéré que c'était chez eux. Donc, à un moment donné, c'était de dire, bon, voilà, faites la même chose, mais sur l'espace public. Voilà. C'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Donc, c'est de partir de l'intérieur et de l'intimité pour aller vers vers l'extérieur et la collectivité et le collectif. C'est un peu ça. vous pouvez m'interrompre, c'est super.
Oui, donc je connais un petit peu la cité Claveau. Donc moi, je voudrais savoir, à partir de ce moment-là où on propose aux habitants de se réapproprier l'espace public qui est délaissé, de quelle manière on va pouvoir les accompagner et de quelle manière on va pouvoir cadrer quelque part ou suivre ces appropriations, parce qu'on sait très bien que les gens, ils ont envie de s'approprier un petit morceau de terrain rien qu'à eux. Et comment on pourrait faire pour qu'ils travaillent dans le sens de la communauté, quoi. Pas simplement pour leur petit foyer, au détriment de leurs voisins qui pourraient s'en plaindre. Enfin, je sais pas si ma question est très claire.
Si, c'est très clair, parce que c'est toujours la même question qui revient et que la notion de liberté, elle est, c'est quoi l'expression là ? Elle démarre là ou termine celle de l'autre ? Enfin, je sais pas quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ben, je pense qu'il faut pas avoir peur du chaos, en fait. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Et c'est peut-être un peu... C'est pas très entendable aujourd'hui, mais malheureusement, le conflit, c'est pas forcément signe... Enfin, c'est pas forcément négatif, c'est aussi... on construit les choses sur le conflit. Donc, dans cette idée-là, je pense que si déjà on laisse cette liberté... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est juste le premier pas qui manque. C'est le pas de... Est-ce que je peux sortir et faire ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? J'ai plein d'idées, j'ai envie de le faire, mais j'aurais peut-être pas le droit. Enfin, on va venir m'emmerder, quoi. On va me dire t'as pas le droit. Donc c'est juste trouver ce moment de basculement pour que ça. Et après l'ordre, je pense. Enfin, moi, j'ai une profonde confiance en la nature humaine. Alors peut-être à tort, j'en sais rien, mais les choses. Les relations, elles se régulent d'elles-mêmes d'une certaine manière, quoi. Après, on peut se poser la question, effectivement, de la gouvernance, mais il faut rester sur un processus d'échange et collectif et puis voir comment ça évolue, mais toujours avec la même liberté. C'est le pas suivant, on va dire. C'est-à-dire que... Pardon ? Alors, c'est toujours le problème qu'on se pose. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur des friches... On en a parlé à l'instant, l'intérêt de la friche. Alors, moi, je préfère la friche naturelle plutôt que la friche industrielle. Parce que la friche naturelle, elle est, à un moment donné, la nature instaure des règles qui se mettent en place toutes seules. Et elle se régénère, puisqu'on la laisse se régénérer. Et en ayant travaillé pas mal sur les friches industrielles, c'est un peu différent, où il y a une sorte de liberté qui se met en place, mais il y a toujours un moment de basculement sur la friche, sur le moment où on va constituer une structure gouvernante, et on va dire à ce moment-là, mais cette friche, elle était mieux avant, parce qu'aujourd'hui, ben maintenant, elle a plus cette liberté d'action parce que elle est, je trouve pas le terme, mais elle est devenue correcte, quoi, d'une certaine manière. Donc je réponds pas vraiment à la question, mais c'est simplement c'est pour dire que c'est peut-être trop tôt de se poser cette question-là. En fait, je pense que c'est pas à pas, quoi. En fait. Et ça peut bien se passer. Je sais pas.
Tout à l'heure, tu parlais des tensions qui étaient positives sur ces espaces publics. Et moi, personnellement, je pense que du coup, enfin, pour en parler autrement, les tensions qu'on vit sur l'espace public, c'est l'expérience d'apprendre à vivre ensemble.
Oui.
Et donc, les politiciens nous parlent beaucoup de vivre ensemble. Mm-hmm. Mais pour vivre ensemble, il faut apprendre à vivre ensemble. Et pour ça, il faut vivre des tensions et arriver à les résoudre. Si toutes les tensions sont légiférées, réglementées, organisées, parce que tout notre espace public est codé, énormément de choses sont codées, et donc on sait tout de suite si on a le droit, si on n'a pas le droit, enfin on le sait ou on ne le sait pas, mais les choses sont codées, et du coup il n'y a pas de place à cette tension-là, donc il n'y a pas de place à l'apprentissage à vivre ensemble en fait.
Oui, je suis d'accord.
Mais je pense que dans l'état où sont certains quartiers, je pense par contre qu'il y a besoin, qu'il ne suffit pas de mettre des espaces où il y ait ces tensions qui puissent exister, mais il faut aussi aujourd'hui des gens qui soient capables d'être des acteurs de ces espaces publics pour être des entrepreneurs, c'est des
médiateurs.
Des médiateurs. Je pense qu'on a besoin de médiateurs, pas forcément institutionnalisés, ça peut être aussi des riverains, des citoyens, mais je pense qu'il y a des tensions telles aujourd'hui que les gens, justement, ils ont perdu l'apprentissage, le savoir vivre ensemble, et que il y a des tensions qui se résoudraient pas comme ça automatiquement. Au contraire, la tension peut aller au conflit, et le conflit, c'est les gens qui ne sont plus capables de parler ensemble et de résoudre leurs problèmes.
Oui, ça c'est le conflit. Enfin bon, on peut parler. C'est une sorte de terminologie. Enfin, pour moi, quand je dis conflit, c'est peut-être c'est trop fort. Alors, c'est du dialogue, on va dire. Mais je ne sais pas trop quoi dire. C'est-à-dire que moi, je pense que la façon dont on fait le projet, enfin dont je fais le projet, j'essaye de mettre en place des choses pour que les gens se les approprient. Je vais jamais au bout de ce que je fais parce que le processus d'appropriation est aussi de dire ben je vais finir, enfin en gros une espèce de mouvement. Donc je me positionne, je dis toujours on est un peu la courroie d'entraînement quoi, c'est-à-dire qu'en gros on fait pas la place, on fait pas du paternalisme ou maternalisme, c'est plutôt dire ben regardez, on le fait, ça se passe pas mal, vous pouvez le faire aussi, quoi. Voilà. C'est à peu près aussi simple que ça. Et après, tout ce qu'on met en place, on travaille beaucoup avec les compagnons bâtisseurs, des structures, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet parce que c'est assez complexe, mais j'utilise toute la structure des marchés. Enfin, tout ça, c'est très. Moi, je travaille dans un métier qui est très réglementé et tout ça. Donc, je me sers de tout ça et je le transgresse un petit peu pour faire des choses différemment. Avec les moyens que j'ai. Et du coup, j'essaye de brasser et créer du lien le plus possible dans le cadre de ces projets. Parce qu'on est sur place, en effet, je l'ai déjà dit, mais à travers tous les événements, la façon dont on va travailler avec les ouvriers, enfin, comment le chantier va se dérouler, comment on va occuper l'espace, nous-mêmes, en tant que fabricants ou constructeurs, et comment on va le faire en sorte que ce ne soit pas de façon complètement imposée, mais accompagnée. C'est-à-dire que ce qu'on met en place, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et toute la question, ça va être, en effet, c'est de savoir comment on va avancer là-dedans, parce que c'est un projet assez long, hein, donc... sans créer une situation d'abandon ou voilà, donc à un moment donné c'est un pari, je suis pas sûre de le gagner, hein, mais voilà, on fait ça comme ça. On pourra se revoir dans 3 ans si vous voulez pour en reparler, mais en tout cas on structure les choses. Alors c'est pas de la médiation, mais on structure les choses pour que, et là non plus c'est pas de l'institutionnalisation. Mais le projet, ce qui est extraordinaire avec ce moment-là, c'est que c'est un moment de faire. On est dans une forme d'action, et dans cette action, on peut emmener plein de gens, quoi. Et il faut que ce mouvement, il perdure au-delà du moment où on s'en va, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc auquel je suis très attachée. Le droit à l'expérimentation, on a effectivement, ça sous-entend derrière ça qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, et il faut aussi, ça suppose aussi qu'on puisse laisser faire, un minimum les choses. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. C'est à un moment donné être bienveillant, je pense, et laisser faire. Et ça peut être pas mal.
Mais du coup, pas uniquement pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens. C'est-à-dire de dire, enfin, il faudrait que ça soit la mairie ou enfin les quartiers qui disent il y a un droit à l'expérimentation et ça peut être fait dans un cadre professionnel de gens qui sont missionnés, mais aussi un droit à l'expérimentation des citoyens eux-mêmes sur les espaces publics, etc.
Ben, je pense que c'est vers. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi permis de faire. Donc, c'est dans le cadre du ministère de la Culture, c'est en fait. C'est l'article 88, je sais pas quoi. Et il est en fait, c'est une loi qui permet. Enfin, moi, je dis que c'est une loi pédagogique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une loi qui permet de comprendre qu'on peut intégrer une forme de jurisprudence dans le faire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire et démontrer que ce qu'on fait, c'est bien, et peut-être le reproduire et s'en servir. Et pas. Alors, j'ai une question très simple. Je vais donner un exemple assez simple. Actuellement, le projet, on a installé une salle, un lieu de vie qu'on a appelé l'atelier de chantier, qui est un lieu de construction et un lieu d'accueil pour faire des fêtes, des conférences, des rendez-vous, des réunions, enfin ce qu'on veut. C'est fait essentiellement avec du réemploi et donc à pas cher. L'idée, c'est ce que nous, on appelle sur les chantiers la base vie. Normalement, sur les chantiers, vous avez toujours des algécos que les entreprises louent très cher. Donc nous, on dit, voilà, on ne va pas dépenser de l'argent pour louer des algécos, on va dépenser de l'argent pour faire. Donc c'est le premier acte de construction, on s'installe sur place et on construit avec les autres, enfin tous les acteurs du projet. Alors ça n'inclut pas tous les habitants, quelques habitants qui sont bénévoles, mais voilà, c'est le premier truc. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, cet outil est vachement bien et tout le monde me dit, mais en fait, ce serait chouette que ça reste. Alors nous, on l'a fait sans permis, sans rien, puisque c'est dans le cadre du projet. Et que là, il y a une convention avec la mairie, on a le droit d'y être. Je ne sais pas ce que ça. Enfin, je suis en train de réfléchir déjà, alors qu'on n'est pas parti, hein, mais sur comment on va pouvoir faire perdurer cette expérience et cet outil. C'est-à-dire qu'en gros, idéalement, nous, on s'en va et ça devient un lieu pour les gens. C'est-à-dire, alors, soit ça se constitue sous une association, soit c'est les habitants. Voilà, donc parce qu'on a mis en place une outil-tech, on a mis en place une matériothèque, enfin on a mis plein de choses comme ça à la disposition des habitants et pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Et donc je sais qu'à un moment donné, on va me dire mais t'as fait ça sans autorisation, donc tu n'as pas de permis, la zone est inondable, qu'est-ce que ton truc, il faudra le démolir. Donc la question, là, pour le coup, est posée. C'est est-ce qu'on a le droit d'avoir une expérience qui peut durer un peu plus que 4 ans ? Et donc, moi, je militerai en ce sens-là. Je n'y suis pas encore, mais je sais que c'est une question qui va venir et je sortirai peut-être la carte du permis de faire. Mais je. Voilà. Mais. Donc, le permis de faire, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire, voilà, il y a ce truc qui a prouvé que c'était utile, qui a prouvé que ça répondait à un besoin. Et donc, est-ce qu'on peut le conserver ? Parce qu'il est utile, quoi. Voilà. Il sert à créer du lien et la sociabilité. Voilà.
Et du coup, moi, la question que je me pose, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de lien social, de faire d'expérimentation. Et au final, je me demande si, justement, jusqu'où on peut aller, en fait, dans l'expérimentation. Est-ce qu'au final, si des citoyens se mettent à essayer, donc essayer de faire, à se rassembler pour essayer de construire, est-ce que justement ça ne peut pas créer des frictions, on parlait de tensions tout à l'heure, au sein d'un territoire, si les personnes viennent réinvestir des espaces spontanément?
Ça pose tout de suite la question de la légalité par rapport au territoire, parce qu'on est sur... Quand on construit, il faut un permis. Enfin, donc c'est j'aurais envie de dire que, comme on fait souvent sur certains projets, les choses peuvent se vérifier par elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire si ce qui est fait correspond à une demande, à une nécessité, à un besoin, je vois pas pourquoi on ne le laisserait pas. Voilà. Et je pense que il y a rien de mieux que ça, quoi, pour savoir si quelque chose est viable ou pas, quoi. Si ça passe par la nécessité, cette nécessité-là.
Du coup, passer par le faire et le besoin pour finalement aller sur la production de choses. C'est-à-dire que finalement, en fait, il faut faire. Pour s'il y a besoin, du coup, s'il y a un vrai besoin, les gens font et finalement il y a des choses qui vont émerger. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que souvent on dit non avant d'avoir vu quoi que ce soit. Alors je trouve que c'est quand même pas mal de voilà. Après, il faut être aussi conscient. Ce qui est intéressant, faut jamais oublier la difficulté que ça peut représenter de faire et de construire. Voilà, c'est pas anodin, c'est un effort physique de faire. Donc, avant de démonter quelque chose qui a été fait, il faut se poser la question de cet effort, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut respectueusement dire que ça vaut rien, quoi. C'est un peu improvisé tout ça, mais Simon, je pense que tu veux réagir du coup, peut-être.
Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes présentes ? Simon, je te laisse. Alors du coup, je vais passer la parole à Simon Leroulet, qui est sociologue, du coup, qui va nous parler, nous faire un petit retour historique sur la ville et comment se construit la ville.
Je te conseille de venir ici. Hein.
Pardon ?
Je te conseille de venir ici, tu vas avoir les cours.
Ouais, j'ai un peu l'habitude à cause de cette horrible chose qu'est l'université. Du coup, ouais, la question qui était posée, c'était comment fabriquer la ville de demain. Du coup, ça soulève plusieurs questions. C'est comment se fabrique une ville ? La première réponse qu'on pourrait apporter, c'est qu'une ville, matériellement, elle se fabrique par des ouvriers qui posent des pierres, qui font de la maçonnerie, qui... Voilà, mais du coup, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante, puisque ce n'est pas eux qui conçoivent la façon dont va être produit l'espace. Il y a donc après un autre niveau, qui est celui effectivement des architectes et des urbanistes, qui conçoivent l'espace. Comment, selon un certain nombre de doctrines, de courants, d'inscriptions dans des valeurs aussi, qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent porter. Est-ce que tous ces projets peuvent être réalisés ? Non, puisqu'on le sait, les urbanistes comme les architectes, comme beaucoup de professions aujourd'hui, sont de plus en plus précarisés et tout le monde ne trouve pas réalisation dans ces projets qui fonctionnent de plus en plus sur le type de l'appel à projet, qui est une nouvelle forme de gestion managériale de la production de l'espace. Il faut donc les trier. Et qui les trie ? C'est les collectivités, c'est l'État et c'est les groupes d'investissement privé de l'immobilier. Donc ce sont eux qui évaluent, qui trient des conceptions de l'espace réalisées par d'autres personnes. Ils jugent donc quelque part de ce qui est bon pour nous. On voit donc que la question peut s'avérer relativement déprimante et pessimiste d'un point de vue d'une fabrication de la ville qui appartiendrait aux acteurs directement. Alors qu'est-ce qu'il advient de nous dans ce processus-là ? Eh bien, c'est un peu de ça que j'ai envie de parler dans le temps qui m'est imparti. C'est l'idée du lien entre nous et entre la ville, de la place de l'individu et des groupes d'individus dans la production de l'espace. Et je vais partir d'une sociologie particulière, qui est celle d'Henri Lefebvre, qui a notamment théorisé la question du droit à la ville et la question de la production de l'espace. Alors ça pose la question de quel est notre droit possible à la ville, puisqu'on parlait d'un droit à l'expérimentation. Peut-on parler d'un droit à la ville aujourd'hui et en quoi ? Et donc pour ça, il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour essayer de comprendre comment ça marche. Henri Lefebvre nous explique que chaque mode de production, c'est-à-dire chaque type de société, produit un espace et un temps qui lui sont propres. Le servage, comme forme d'économie, a eu son espace, l'Antiquité a eu son espace, la démocratie athénienne a eu son espace. Le capitalisme a son espace. Donc le capitalisme, pour un rappel assez simple, fonctionne sur le principe du salariat, donc de l'exploitation de la force de travail en vue de tirer une plus-value qui revient à la personne qui est détentrice ou au groupe d'intérêt qui est détenteur des moyens de production. Donc il y a déjà une forme d'appropriation de l'espace qui appartient à cette classe de propriétaires. L'autre division intéressante dans la question du capitalisme, c'est celle de la distinction entre le travail intellectuel et le travail manuel. Dans l'idéologie allemande, Marx et Engels expliquent par exemple la façon dont l'idéologie, c'est-à-dire le savoir, le produit intellectuel, ce qui vient permettre après d'appliquer la pratique, est produit par un groupe particulier qui est lié directement à la bourgeoisie. Donc partant de là, la conception de l'espace elle-même est dissociée des intérêts pratiques des usagers, qu'est la quantité massive d'individus exploités, qu'est le prolétariat au XIXe siècle. David Harvey, un géographe et philosophe américain fantastique que je vous appelle à lire, a produit un livre qui s'appelle « Paris, capitale de la modernité », qui est sorti aux Prairies ordinaires. Et dans ce livre, qui décrit l'invention de Paris au XIXe siècle, on retrouve un petit peu des phénomènes bordelais. Moi, je suis de Caen, je suis pas de Bordeaux, mais comme ce qui se passe en termes de gentrification au niveau de Saint-Michel, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle? Il y a un exode rural, il y a des crises agricoles, il y a le début de l'industrie, et donc il y a une concentration urbaine. Les industries se situent plutôt à la périphérie de la ville de Paris, dans des petites villes de rurales, des espaces ruraux à l'époque, que sont Belleville, Ménilmontant, etc., toutes les villes qui sont maintenant des quartiers qui étaient autrefois encore populaires à Paris. L'habitat ouvrier est autoproduit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on fabrique des maisonnées, des quartiers, les ouvriers eux-mêmes fabriquent leurs quartiers quand le propriétaire, justement, recevant de plus en plus de main-d'œuvre du fait de cet exode rural, n'a pas suffisamment de logements. Donc on a une appropriation directe de l'espace et la conception d'un espace public qui appartient à cette classe ouvrière. Ce qui fait qu'il y a des rencontres, des mœurs qui naissent de la rencontre de ces ouvriers dans ces espaces-là, notamment avec des pratiques qui sont opposées à ce qui peut se passer effectivement dans les espaces bourgeois, notamment la bourgeoisie va lutter contre l'alcoolisme, alors au nom de l'hygiène, mais aussi car l'alcool est la fête dans ces quartiers-là, c'est-à-dire le vivre ensemble justement, produit aussi de la rencontre et produit notamment, du fait d'une bonne gueule de bois, des grèves collectives qui mettent à mal la production. Donc il va y avoir toute une police des mœurs qui va viser à chasser la fête des bourgs ouvriers. Alors, en 1848, il y a une insurrection, et dans le régime qui va suivre, qui sera celui de quelques années plus tard de Napoléon III, Napoléon III voudra éviter à tout prix que l'insurrection prolétarienne arrive à nouveau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va embaucher un urbaniste, un proto-urbaniste, qui s'appelle Haussmann, qu'on connaît pour avoir embelli Paris, avoir assaini Paris, etc. Comment ça fonctionne l'urbanisme haussmannien? C'est casser les petites artères, les petits couloirs, etc., pour faire de grandes tranchées dans l'espace, de grands boulevards qui permettent à la fois de dégager, de donner de l'air à la ville, mais également aussi de permettre la circulation plus rapide des transports. Transport de marchandises, transport humain, mais aussi des fourgons de police. Qui ne sont pas des fourgons à l'époque, mais qui sont des voitures à cheval de police et la troupe. Alors, l'idée est également de mettre en place des immeubles plus hauts, les immeubles de rapport, avec une possibilité laissée aux propriétaires, avec la spéculation sur le loyer, de rembourser assez vite l'investissement qui permet l'élévation de ces immeubles, avec des loyers notamment que les anciens ouvriers ne peuvent pas payer. Donc on se retrouve avec une volonté directe de la part de Napoléon III, quand il le commande à Haussmann, de chasser du centre-ville les dernières classes dangereuses, comme elles étaient appelées à l'époque, qui peuplent Paris. Et on construit les grands magasins, donc des grandes rues, avec du commerce qui se déploie dans une forme un peu plus contemporaine qu'on en a encore aujourd'hui. Alors cette expulsion des classes dangereuses, elle ne fonctionne pas tout à fait, puisqu'en 1871 apparaît la Commune de Paris. Et Henri Lefebvre décrit la Commune de Paris comme le droit à la ville, comme l'appropriation sauvage de l'espace par la classe ouvrière qui reprend le centre de Paris dont il avait été chassé. L'idée est alors à ce moment-là, dans la Commune de Paris, les textes sont clairs, de critiquer l'augmentation des loyers généralisés, de retrouver le droit à la fête et à des formes de démocratie qui s'opposent directement au centralisme de l'État. La Commune, on le sait, sera massacrée dans le sang, sera une des guerres internes les plus meurtrières de l'histoire de France. Alors, dans cette question du droit à la ville posée par Lefebvre, il y a la fête, il y a le retour au côté polycentrique des centres-villes, et il y a l'idée, effectivement, d'une appropriation de l'espace. L'autre tournant majeur, c'est début du XXe siècle, en 1923, je crois, quand un livre écrit par un fasciste, parce qu'on oublie de dire que c'est un fasciste, on le prend comme un grand homme, mais c'était un fasciste, il faisait partie des ligues fascistes, un livre qui s'appelle Urbanisme, rédigé par un certain Le Corbusier. Dans ce livre, qui est fascinant, écrit par un fasciste, je le rappelle, la ligne droite est licite, la courbe est le chemin des ânes. Donc il faut des rues droites, il faut augmenter la circulation des marchandises, des hommes, pour ramener de l'ordre. La ville doit être rationnelle et il faut éviter effectivement la vieille ville ouvrière, les villes polycentriques, avec l'ajustement de grandes voies circulatoires. Il faut que la ville, dit-il, soit une machine à circuler et notamment permettre le développement de l'automobile dans les centres-villes. Alors circulation, ça veut dire circulation de marchandises, donc de plus-value. Donc la ville est pensée aussi en fonction de l'ordre et d'un ordre adapté au mode de production économique qu'est le capitalisme. Le fonctionnalisme, c'est le zonage, c'est-à-dire des zones spécifiques avec des fonctions spécifiques. Donc les centres-villes ne sont plus ces moments où on a des échoppes, où on a le cordonnier, le boulanger, l'épicier, le poissonnier qui sont à côté, mais où on va aller, comme aujourd'hui, quand on doit aller acheter ses godasses dans tel quartier, quand on doit aller faire ses courses dans tel autre, etc. etc. Donc Le Corbusier, avec la Charte d'Athènes, produit tout un mouvement d'urbanistes qui s'inscrit dans une continuité plus humaniste, mais qui n'empêche est pris de ses valeurs. Après la décolonisation et après la Seconde Guerre mondiale surtout, il y a notamment dans les villes détruites une nécessité à reconstruire. Et donc, des personnes sont ramenées des colonies pour construire dans les quartiers des grands ensembles dans lesquels ces personnes issues de l'immigration, vers la colonisation et donc qui ont subi la violence coloniale, se retrouvent à habiter. Dans les années 80, explose une contestation dans ces zones-là, les émeutes, hein, les émeutes de banlieue, comme on les appelle, les violences urbaines, on dit les sociologues, avec toute leur distance à la situation, qui étaient en fait traitées politiquement comme étant un problème de l'espace. Alors l'espace n'est plus produit par l'État d'un seul coup, l'espace produit des individus, il produit des pathologies. Donc les individus sont eux-mêmes pathogènes, et l'espace lui-même produit la pathologie. Donc on va inventer, notamment en 74, un petit peu avant déjà, et puis dans les années 80, des dispositifs avec des ANPE au centre, des centres sociaux, etc., etc., pour corriger ces éléments nuisibles, ces nouvelles classes dangereuses. Alors, ce que je rappelle par cette petite histoire qui continue aujourd'hui avec le phénomène de métropolisation, où en gros, l'espace rural n'a plus le droit d'exister, où on construit des aéroports, pas très loin, un peu au nord d'ici, sans aucun but, si ce n'est effectivement d'augmenter la circulation, etc. Ce que ça nous amène à penser, c'est que l'espace, il est bien produit par quelqu'un. Il n'est pas tant produit par l'urbanisme, finalement. Il est produit par une classe sociale, qui est la classe dominante, avec le support de l'État. Et dans les formes de résistance qui existent à cela, il y a l'occupation, l'appropriation de l'espace, que l'on songe aux squats, aux hackerspaces, aux makerspaces ou encore aux friches, à ces tiers-lieux dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le droit à la ville pourrait être incarné quelque part par ces tiers-lieux. La réappropriation des espaces doit donc laisser entendre une forme aussi d'offensivité et de défensivité, c'est-à-dire d'affirmation d'une situation de domination au sein de l'espace urbain, mais également de proposition que certains mouvements urbains contemporains essaient de tenir, ou même dans zone rurale comme à Notre-Dame-des-Landes, essaient d'inventer. Alors la question qui se pose, et pour conclure et laisser la discussion s'ouvrir, c'est effectivement celle de la capacité des individus à pouvoir vivre dans des espaces où le projet d'Henri Lefebvre de droit à la ville, qui passe aussi par un changement d'échelle, c'est-à-dire les villes sont tellement grandes qu'il faut revenir à une démocratie de quartier pour aussi mettre en place une destitution de la puissance d'État et affaiblir l'État et mettre en place progressivement l'utopie communiste. Alors, on nous pose souvent la question, effectivement, quand on travaille sur le droit à la ville, de oui, mais est-ce que les individus sont éduqués à ça? Est-ce qu'ils ont effectivement l'éducation, l'apprentissage des savoir-vivre? Eh bien, je pense qu'Henri Lefebvre et la sociologie urbaine le montrent, et la sociologie en général le montre, les individus sont, me semble-t-il, par nature, de bonne composition, puisque jusque justement dans la misère la plus écrasante dans les cités dortoirs, dans les ghettos urbains, justement se développent d'autres formes d'économie qui sont illégales, mais qui reposent sur des socialités et sur des nouvelles sociabilités, non uniquement familiales, mais de sociabilités nécessitées par la débrouille, par le bricolage au quotidien. Donc l'individu a quand même une prédisposition à s'auto-organiser pour réussir à survivre. Et puis l'autre chose, c'est surtout qu'en fait, on arrive à penser ces questions-là avec un cadre théorique qui est celui de l'individu serait par nature en concurrence avec les autres individus. Bon, lorsque la question de la Commune de Paris, ou même avant de la naissance du milieu ouvrier et des espaces publics prolétariens se pose, elle se pose avec la naissance du mouvement associationniste, qui plus tard donnera le mouvement associatif. Part d'une autre chose, c'est-à-dire de dire que si effectivement le capitalisme rend les gens concurrents, l'égalisation des conditions dans les dispositifs de délibération politique, notamment par la démocratie directe, peut permettre de réduire les différences entre les individus et de ramener effectivement des formes de coopération qui sembleraient plus naturelles. Ce qu'il faut donc se dire, c'est que parler de démocratie n'a aucun sens si, dans le même temps, on ne parle pas d'égalisation des conditions sociales, car on le sait, quelqu'un qui naît dans des conditions économiques relativement réduites, pauvres, se retrouvera bien souvent à développer des capitaux culturels, symboliques et sociaux pauvres, c'est-à-dire qu'il aura moins de dispositions à prendre la parole. C'est là, par exemple, une des différences majeures dans la socialisation patriarcale entre les hommes et les femmes. C'est des choses comme ça qu'on nous apprend dès l'école. Donc, partant de là, ça veut bien dire que si on doit déjà promener une forme de démocratie, il faut qu'il y ait une forme d'égalisation des conditions sociales. Et cela passe nécessairement aujourd'hui, me semble-t-il, encore et toujours, par le fait de lutter pour cette égalisation sociale en même temps qu'on lutte pour l'appropriation d'espace. Et enfin, pour conclure, si on doit se poser la question des formes du conflit que le conflit peut prendre, il faut aussi poser la question du fait qu'on vit dans une société où nous sommes appelés à la pacification, où on n'a plus le droit à l'engueulade, où on n'a plus le droit à la friction, où on n'a plus le droit quelque part à s'opposer au monde tel qu'il nous est donné à la naissance. Et dans ce cas, il faut aussi admettre le fait qu'on ne peut ne pas vouloir la même chose. Mais est-ce que ce serait un problème ? Est-ce que ce serait un problème de vouloir vivre différemment les uns des autres ? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt la solution qui permettrait une cohabitation, non pas au sein d'une ville, mais au sein d'îlots, dans lesquels des formes de vie pourraient, en communiquant de l'une à l'autre, s'expérimenter, toujours et en continu, avec des règles communes qui permettent aux individus, justement, de vivre ensemble avec une réduction du conflit.
Merci beaucoup, Simon. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Pas de question. Alors, moi, du coup, j'ai une question. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mode d'action. Moi, je me demandais, est-ce que en tant que individu, après le constat qui a été fait là par Simon, est-ce que moi, en tant qu'individu tout seul, qu'est-ce que je peux faire pour agir, pour essayer de finalement de me réapproprier la ville ? C'est ça, en fait, un peu la question. Est-ce que finalement, est-ce que tout seul, est-ce que c'est possible, ou finalement, est-ce qu'il faut, il faut que ça soit des initiatives un peu collectives, comme on essaye de le faire ici, ou pas, ou autrement, justement pour que le citoyen puisse revenir au centre de la ville et finalement se réapproprier l'espace public.